demande spéciale avant que je arrive à ouvrir ce micro-là. Est-ce que vous m'apportez de l'eau ou c'est pas la même technologie que chez nous, alors il faut que je me questionne. Alors, je pense que je suis à. François, je ne te vois pas, mais tu vas me dire si je suis... oui, absolument. Je peux le dire moi-même que je suis là. Avant de commencer, je veux juste dire encore une fois que je suis vraiment, vraiment heureux d'être ici ce matin, même si la route n'a pas été facile pour se rendre. Nous sommes là et nous sommes vraiment contents d'être ici. Juste avant de commencer aussi, pour j'ai remarqué ce matin, quand j'étais en train de finir de m'habiller, que je voyais que j'avais une chemise très, très festive au niveau de la couleur. Peut-être que des gens, ça va éblouir avec la lumière, mais... Je pensais à ça, puis j'ai dit, c'est une chemise, ouais, c'est peut-être une chemise trop festive, justement. Puis je me suis surtout demandé si je m'étais pas trompé de fête, en fait. Avec le rouge et l'orange et le noir, là, je me suis dit, j'espère juste que vous n'aurez pas l'impression que vous avez une citrouille qui vous parle en avant. C'est juste, j'avais l'impression que je faisais ça, la tige et puis la citrouille, là. En tout cas, j'avais juste l'impression, là, ce matin, quand je terminais de m'habiller. Mais bon, sinon, essayez de vous concentrer sur ce que je vais dire. Peut-être que ça va être plus facile. Tout d'abord, je vais prier, puis ensuite, on va aller dans la prédication de ce matin. Je sais aussi, avant juste de prier, juste vous dire, je sais que certains d'entre vous ont de la misère, et c'est pareil partout où je parle. François a eu l'idée, d'ailleurs, de me mentionner que j'avais pas la même forme de visage que Yannick aussi. Et il l'a dit de façon très diplomate. C'est très bien, merci François. Donc ça demande quelques ajustements aussi. Avant de prier, j'aimerais juste vous rappeler, et tous ceux qui m'entendent, soit pour la première fois ou pas régulièrement, ont un problème avec mon débit. Je parle habituellement très, très rapidement. Et si vous voyez que vous êtes plus capable de me suivre, et peut-être même, je ne sais pas s'il y a de la traduction ce matin, peut-être qu'ils vont apprécier aussi que vous me fassiez signe. Pour pas qu'il y ait de la boucane dans les oreilles là-bas, dans l'écoute. Alors, juste me faire signe. S'il y a des gens qui voient que vraiment je vous perds, faites-moi signe. Il y a des gens que je connais bien ici. Le Danny, tu peux me faire signe peut-être si je parle trop vite ou Chantal, mon épouse. En tout cas, gênez-vous pas. Faites juste signe comme ça. Je vais comprendre qu'il faut que je ralentisse. Peut-être que vous allez devoir le faire quelques fois pendant la prédication. Alors, je vais prier. Merci, Alexandre. Juste le mettre peut-être par terre. Merci. Et je vais prier, puis ensuite, on va pouvoir aller avec la prédication de ce matin. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es notre chemin, mais tu es aussi une voie sûre, Seigneur, pour l'éternité. Tu nous protèges aussi sur cette route qui est la route de la foi. C'est un cheminement, c'est une expérience aussi, la foi. C'est pas simplement une connexion intellectuelle qui se fait dans notre tête, mais c'est une expérience, une connaissance, une relation qu'on développe jour après jour, expérience après expérience avec toi. Et on veut que cet enseignement de ce matin puisse être un outil dans nos vies pour, Seigneur, apprendre à marcher un peu plus joyeusement avec toi et un peu plus librement avec toi. Amen. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit maintenant, on est dans un monde où tout se passe vite. Toutes les choses se déroulent rapidement. Toutes les choses se déroulent rapidement à un sens où on veut toujours arriver rapidement où on veut arriver. On veut arriver au bout du chemin avant d'être parti. On planifie nos déplacements, nos moindres déplacements, on les planifie. On prend le GPS, on prend les navigateurs, on va sur Internet, on fait nos plans pour arriver toujours, toujours le plus rapidement possible à destination. Le chemin qu'on parcourt est devenu de plus en plus secondaire. On n'apprécie pas la route sur laquelle on se trouve. On veut toujours, toujours être arrivé à destination. Et petite parenthèse, ce matin, on arrive de Pont-Rouge, en fait, ce matin. On arrive de Saint-Raymond-de-Portneuf ce matin. Et c'est un choix qu'on a fait de venir ce matin plutôt que la veille. Puis on s'est rendu compte que c'est important de planifier nos déplacements et de même, des fois, prévoir un peu plus. Ce matin, ça a été une route plus difficile. Ici, il pleut. Vous avez une belle température, en réalité, pour le temps de l'année. Mais nous, on avait de la neige. On avait un pied de neige quand on est arrivé. C'était la tempête où on est parti. Et donc, en partant de... Disons, plus de 5 heures à l'avance, on est arrivé juste dans les temps où on voulait arriver finalement. Alors, c'est bon de planifier des fois. C'est pas l'idée ici, ce n'est pas de dire et qu'il ne faut pas planifier nos déplacements, mais on est rendu avec une telle obsession de l'efficacité, une telle obsession de dire il faut arriver au but, il ne faut pas arriver dans les détours, il ne faut pas aller être pris dans la circulation. On écoute la radio, on veut savoir hey, à quelle place, où est-ce que je peux tourner avant pour éviter la circulation. L'été, souvent, la construction nous embête aussi au niveau sur la route. Et on veut toujours prendre le chemin le plus court, le plus rapide, le plus efficace, comme si le chemin n'était plus rendu intéressant. Je vous dirais que c'est parfois même la même chose dans la vie spirituelle. On a tendance à vouloir arriver au but. On a toujours tendance à vouloir être rendu. On veut être là. On veut être rendu au niveau qu'on devrait être dans 10, 15, 20 ans ou dans l'éternité. On a cette obsession-là de ne pas apprécier la route sur laquelle on se trouve, de ne pas apprécier parfois les détours qui sont sur notre chemin. On est porté à toujours vouloir être déjà rendu à la destination. Pourtant, la destination avec Dieu, elle est sûre. C'est quelque chose qui est certain dans notre vie chrétienne. C'est la destination. Dieu nous assure par la foi qu'on va arriver à bon port, qu'on va arriver à la maison un jour. Cette partie-là de la route, elle est certaine. S'il y a quelque chose qui est certain dans tout le parcours de vie qu'on va avoir comme croyant, c'est qu'on va arriver à destination. C'est une chose certaine. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que la route est importante pour Dieu. Et c'est ce qu'on doit réapprendre à faire. Réapprendre à apprécier la route sur laquelle on est. Réapprendre à vivre parfois même les détours dans lesquels Dieu nous fait passer. En fait, je me plais à dire, et vous allez peut-être le découvrir avec moi dans le texte de ce matin, que Dieu aime nous faire passer par des détours. En fait, Dieu apprécie les moments où il nous fait passer par des détours dans la vie pour se faire connaître un peu plus à nous, pour nous donner le temps de l'apprécier davantage, de le connaître davantage et être transformé par sa présence dans ces détours-là. Prendre le temps d'aller dans les détours avec Dieu. À travers les détours, nous, on pense souvent que Dieu prend des détours et on pense que ces routes-là sont souvent inefficaces. On a tendance à croire que la ligne droite entre deux points, c'est toujours le chemin le plus efficace et c'est important d'être efficace aujourd'hui. On a toujours cette mentalité-là que l'important, c'est l'efficacité. Arriver du point A au point B, puis d'arriver le plus rapidement possible, et le reste ne compte pas. Maintenant, on va regarder ensemble ce matin comment Dieu, par certains détours finalement, se trouve à être beaucoup plus efficace dans nos vies que par les lignes directes. Le texte de ce matin nous invite à regarder Dieu qui a volontairement provoqué un détour dans le peuple d'Israël pour se faire connaître à eux, pour leur donner le temps de développer leur foi et leur marche spirituelle. L'efficacité dans notre vie n'est pas la même définition que l'efficacité aux yeux de Dieu. En fait, pour nous, l'efficacité passe par la rapidité. L'efficacité passe par le chemin en ligne droite. Mais pour Dieu, le chemin est aussi la destination. Le chemin sur lequel on marche tous les jours dans notre vie chrétienne fait partie de la destination puisqu'elle nous fait grandir et nous rapproche de plus en plus du véritable but qui est de ressembler à son Fils. Son but à Dieu, ce n'est pas qu'on arrive au ciel. Cette chose-là est assurée pour lui. Son but à lui, le but de Dieu en réalité, c'est de nous rendre semblables à son Fils et donc le chemin devient aussi important que la destination finale. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin. On va regarder aussi ensemble que le chemin de la foi, le cheminement de foi qu'on fait comme croyants, mais aussi comme le peuple d'Israël à ce moment-là, n'est pas un chemin linéaire. On a tendance, nous, comme occidentaux, à voir toute la foi comme un système de pensée, un système de vie dans lequel les choses sont linéaires. On part du point A à la foi, ou le jour où on se convertit, et on arrive à la fin au point B en ligne droite. Mais vous savez comme moi, que la foi, le chemin de la foi, ce n'est pas un chemin en ligne droite. C'est un chemin rempli de détours, c'est un chemin rempli de zigzags, de haut, de bas, gauche à droite, on s'est trompé de sortie, on reprend. Ça ressemble plus au chemin de la foi que je vois dans les Écritures, le chemin que Dieu prend avec nous. Finalement, on va regarder ensemble que parfois Dieu nous fait passer par les détours parce qu'il met la table pour ce qui s'en vient. Il nous prépare pour le chemin qui s'en vient devant nous. Parfois, lui sait, en fait, il sait toujours, mais parfois, il y a des choses qui se passent à l'avenir et Dieu doit nous préparer pour ces moments-là. Dieu doit nous équiper pour ces moments-là. Il sait que si on va directement à ces situations-là dans notre vie, qu'on sera prêt à y faire face. Notre foi pourrait faiblir, notre foi pourrait fléchir. C'est pas que Dieu est incapable de nous faire passer au travers, mais Dieu marche avec la progression jour après jour dans notre vie et il veut qu'on soit capable d'affronter les événements et il met la table pour que notre foi s'épanouisse en lui à travers le temps et à travers les temps qu'il nous donne obligés, les détours, les passages obligés, les chemins de travers que j'appelle. Dans le texte de ce matin, avant d'aller le lire, j'aimerais aussi vous parler un peu du contexte dans lequel on se place rendu là. Avant d'aller voir le texte, pour éviter de tout lire le contexte de ce texte-là, le contexte dans lequel ça se présente, le texte de ce matin, c'est Pharaon est sur le bord de laisser partir le peuple d'Israël. Le Pharaon finalement cède devant tous les signes et les miracles, les prodiges que Dieu va produire par la main de Moïse et d'Aaron. Il va permettre au cœur de Pharaon de fléchir et de laisser aller le peuple d'Israël. Mais dans le contexte, il faut se rappeler une chose. La victoire qui vient d'avoir eu lieu, c'est une victoire importante. C'est une victoire qui marque le peuple d'Israël. Pourquoi cette victoire-là? Il n'est pas encore passé la mer Rouge, ce n'est pas encore la victoire sur l'armée de Pharaon, mais Pharaon lui-même est un dieu, est un demi-dieu pour son peuple. Pharaon est à la tête d'une armée des plus puissantes du monde connu de ce temps-là. C'est un homme certainement rempli d'orgueil, ou du moins, en tout cas, il avait certainement un gros égo. Il avait certainement une bonne estime de lui. Je pense que même s'il n'avait pas à l'intérieur de lui, il en avait tous les moyens, en fait. Et cette victoire-là, ce n'est pas une victoire peu importante. Dieu est en train de montrer qu'il est plus fort que Pharaon et tous ses prêtres et toutes ses divinités. Par les signes et les miracles que Dieu produit dans ce moment-là, Dieu est en train de dire « Je suis plus grand, je suis le Dieu le plus puissant. » C'est lui que vous allez devoir suivre ensuite. Dieu est en train de marquer la place où il va faire commencer la démarche spirituelle des Israélites. C'est pas quelque chose de banal de faire fléchir le cœur du Pharaon. Imaginez, cet homme-là est habitué de donner des ordres, pas d'en recevoir. Hein, il est le roi d'un grand peuple, d'une grande armée. Il dit « Toi, tu vis, toi, tu meurs » et ça se passe comme ça. C'est tout à fait naturel pour lui de penser en termes de « C'est moi le patron ». Tout le monde m'obéit et tout le monde me craint. C'est tout à fait normal d'avoir cette mentalité-là pour lui. Et donc, ce n'est pas une petite chose que Dieu a faite. Pour Dieu, c'est simple. Mais pour nous, pour marquer l'imaginaire de son peuple, ce n'est pas une petite chose qu'il a fait là en faisant fléchir le cœur du Pharaon. Une autre chose qui nous met dans le contexte un petit peu, la foi du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, à ce point-ci, n'est pas un peuple victorieux, n'est pas un peuple de guerriers qui est prêt à défoncer, à battre tous les murs, à battre toutes les situations avec son Dieu. Pourquoi? Ça fait au-dessus de 400 ans qu'il est esclave dans un pays. Imaginez la mentalité de père en fils, on est esclave dans ce peuple-là. On n'est pas habitué d'avoir un Dieu victorieux, on a un Dieu qui est soumis, entre guillemets, je dois le mettre, qui est soumis à la divinité, aux divinités égyptiennes. Puisqu'on en est les esclaves, il faut se mettre dans la tête de ces gens-là qui sont esclaves depuis des générations. Ils n'ont pas vu les grands miracles de Dieu du début de la création jusqu'à Abraham et les patriarches. Ils n'ont pas vu encore les miracles qui vont être produits par Moïse, par les mains de Moïse. Donc, ce n'est pas un peuple qui est victorieux, qui a une foi assurée, une foi ferme. On fait face ici à un peuple qui commence sa démarche de foi. Bien qu'ils ont peut-être transmis l'information de génération en génération, ce n'est que de l'information. Ils ne l'ont pas encore vécu cette foi-là. C'est une foi qu'ils ont dans la tête. C'est une foi de mémoire. C'est une foi de rappel. Ce n'est pas une foi appropriée. Ce n'est pas une foi nécessairement qui est... Je ne dis pas qu'il n'y avait personne de croyant dans ce peuple-là, mais c'est un peuple qui n'a pas pu expérimenter encore toute la présence et la personne de Dieu. D'ailleurs, Moïse, un peu de temps auparavant, va aller vers Dieu, puis Dieu va lui dire, va vers ce peuple, tu vas les conduire hors du désert et tout ça, tu vas les amener en Canaan. Mais lui-même va dire, mais comment je vais te présenter? De qui je vais parler quand je vais aller présenter mon Dieu devant ce peuple-là? Ils ne le connaissent même pas personnellement au point qu'ils ne savent pas qui il est. Ils sont entremêlés entre toutes les divinités égyptiennes avec la foi hébraïque qui est transmise de génération en génération, mais ce n'est pas une foi expérimentale encore. Ce n'est pas une foi ferme. Voici le peuple devant lequel se présente Moïse pour les faire sortir du pays. En fait, on peut voir que leur foi est faible juste à regarder les événements qui vont suivre. Ce peuple-là va constamment dire, je veux retourner en Égypte, je veux retourner dans les dieux où j'étais, je veux retourner dans le confort que j'avais, en passant le confort de l'esclavage. Il préfère le confort de l'esclavage plus qu'une vie d'aventure et de périple avec Dieu vers la terre promise. Cette foi-là n'est que dans son amorce. Voici le contexte. C'est juste avant la traversée de la mer Rouge, en passant. Ils sont en train de sortir. Le Pharaon vient juste de dire, c'est correct, vous pouvez y aller. Alors, s'il y a une vérité à retenir dans ce message de ce matin qu'on va voir ensemble, c'est que Dieu, dans le fond, nous fait passer souvent par les détours, parce qu'avec lui, le chemin, c'est aussi la destination. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, pour ceux qui ont leur Bible avec eux, dans le livre d'Exode. Ça va nous changer de la température extérieure, on s'en va dans le désert. Hein, la pluie ou la neige, l'hiver, je ne sais pas si vous aimez l'hiver. Je préfère l'automne, je préfère le printemps. Je ne suis jamais content, autrement dit. Trop chaud, trop froid, trop de neige, pas assez de neige. Exode chapitre 13, versets 17 et 18 nous dit ceci. J'entends encore des pages tourner. Comme ça me fait plaisir, je vous laisse tourner. Exode 13, les versets 17 et 18. On peut y lire ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin des pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir, envoyer à la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. J'étais supposé avoir des cartes à vous montrer, mais si vous regardez dans vos Bibles, éventuellement, soit maintenant ou plus tard, vous allez voir le chemin qu'ils ont pris et le chemin qu'ils auraient pu prendre. Regardez d'où ils partent de Goshen en Égypte et vous allez voir Canaan, le chemin, et allez voir le chemin qu'ils tracent. Dans vos Bibles, généralement, vous allez avoir le chemin qu'ils ont fait réellement par le chemin vers lequel Dieu les a fait passer. Vous allez voir, c'est tout un détour. Le texte m'a frappé, en fait, quand j'ai commencé à préparer cette prédication-là, parce que Dieu volontairement, dans sa narration, va dire, Dieu volontairement fait prendre un détour à Israël. Il choisit volontairement de ne pas les faire passer par le chemin le plus efficace. Il choisit de faire passer Israël, non pas par la ligne droite, mais une ligne courbe qui va finir par être qui va finir par ressembler à un tourbillon au bout de ça. Mais au départ, il choisit de ne pas les faire passer par le chemin de la ligne presque droite qui se trouve entre Goshen, là où ils étaient en esclavage, vers Canaan. Et vous regarderez vos Bibles attentivement et vous verrez, le chemin est vraiment un détour en réalité. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu choisit de faire prendre un détour à Israël dans sa route? Pourquoi Dieu ne choisit pas le chemin le plus efficace pour les amener vers la terre promise? Ça serait, me semble, l'évidence. Pour moi, on s'en va quelque part. Je programme mon GPS, je ne vais pas dire, ben fais ce détour-là. Je vais arriver plus tard à ma destination. Normalement, on ne fait pas ça. Normalement, on dit, je vais arriver du point A au point B, et s'il te plaît, donne-moi le chemin le plus efficace pour m'y rendre. La Bible nous dit ceci sur pourquoi Dieu fait le détour. La Bible nous dit, il fait faire le détour aux Israélites pour un but, pour pas qu'ils perdent la foi, pour pas qu'ils se découragent devant les batailles, devant la guerre, devant les Philistins. Il fait en sorte de ne pas les faire affronter les Philistins pour éviter qu'ils ne perdent courage et qu'ils retournent en arrière, pour pas qu'ils perdent le peu de foi qu'ils ont à ce moment-ci dans leur histoire. C'est ça la raison pour laquelle Dieu choisit le détour. Il veut assurer la foi de son peuple. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut éclaircir peut-être. En tout cas, il y a des questions qui me sont posées, moi, qui se sont posées en voyant ce texte-là, justement. Pourquoi ce détour-là? Pourquoi il devait faire éviter les Philistins à ce moment-là de leur histoire? Bien, il y a quelques questions, mais en tout cas, la première est celle de l'efficacité. Pour moi, en nord-américain, occidental que je suis, c'est pas normal de faire prendre le chemin du détour. Dieu aurait pu très bien faire en sorte qu'il passe directement du point A au point B. Les experts s'entendent pour dire que le chemin, s'ils avaient pris le chemin le plus efficace, ça aurait pris 5 à 10 jours de marche pour se rendre en Canaan. Combien de temps ça a pris pour se rendre en Canaan? 40 ans. 5 jours versus 40 ans. C'est pas très efficace, à mon avis, ça. C'est pas la meilleure manière de faire. Et ça, ça me pose une question dans le texte quand je regarde. Pourquoi Dieu fait éviter la guerre et pourquoi fait-il faire ce détour-là à son peuple alors qu'il pouvait les amener là en dedans d'une semaine? L'histoire est complètement changée après ça. La deuxième question qu'on va essayer de répondre ce matin ensemble, c'est pourquoi les Philistins sont-ils une menace si grande pour Israël? Ils sont sur le point d'affronter une armée bien plus puissante, celle des Égyptiens. Ils sont sur le bord d'être attaqués dans un cul-de-sac par une armée qui est de renommée mondiale pour l'époque. Une armée qui pouvait battre ses ennemis facilement tout autour de lui. L'Égypte était une puissance mondiale de l'époque et on a peur des Philistins? Ça me pose une question pour moi, ça. Ça me pose une question pour qu'est-ce que Dieu voulait faire? Pourquoi Dieu ne fait pas la même chose qu'il va faire aux Égyptiens dans quelques instants après dans le chapitre? Pourquoi il ne fait pas la même chose, il ne planifie pas la même chose pour les Philistins? Il y a une raison pour laquelle il choisit que les Philistins sont vraiment une menace pour la foi des Israélites. Et on va essayer de voir ça ensemble. Le but de la prédication de ce matin, c'est de comprendre l'efficacité selon Dieu. C'est quoi la définition de l'efficacité pour Dieu? Le chemin le plus long semble le plus efficace pour Dieu à ce moment-ci. On va essayer de comprendre ça ensemble. J'aurais dû, comme je vous dis, avoir la carte. Si vous regardez plus tard, vous allez voir que c'est vraiment un chemin inefficace que Dieu les fait emprunter, à notre sens, à nous. Et dans ce sens-là, peut-être que dans le groupe des Israélites, hein, vous savez, les Israélites à ce moment-là, un peu comme peut-être nous-mêmes dans l'Église aujourd'hui, on fait parfois, mais le peuple d'Israël est reconnu pour une chose dans sa route, dans son cheminement dans le désert, c'est il murmure, constamment en train de chialer, toujours en train de dire, Moïse, tu ne fais pas bonne affaire, là, tu devrais passer par là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Imaginez quand Moïse annonce, on ne s'en va pas par le chemin le plus direct, on va passer par en bas. Vous savez, on va descendre la pointe au lieu d'aller directement dans le chemin. Imaginez les gens qui ont un peu le sens de l'orientation dans le peuple, un peu les gens qui sont des genres du type business un petit peu, puis dire, « Hey, c'est pas Moïse, je pense que tu n'as pas compris. Là. On va regarder la map ensemble, puis je vais te montrer comment faire. » Il y a dû avoir une couple de personnes qui ont été voir Moïse quand Moïse a dit, « C'est par là qu'on s'en va, puis pas par là. » Il y a dû avoir une couple de personnes qui ont dû dire, « Boy, Moïse, c'est-tu vraiment le gars qu'on attendait pour nous sortir de là? » Il ne sait même pas où il s'en va. On s'en va dans une mauvaise direction. Et comme je l'ai dit, 5 à 10 jours au lieu de 40 ans. On va essayer de répondre à la deuxième question que j'ai posée en premier, celle des Philistins. Pourquoi Dieu s'inquiète-t-il que les Israélites vont rencontrer les Philistins? Il peut vaincre toutes les armées de la terre d'un seul claquement de doigts, d'une seule pensée, d'une seule parole. Il peut anéantir n'importe quel peuple devant lui. Alors la question se pose, pourquoi il s'inquiète des Philistins puis il ne s'inquiète pas de l'armée de Pharaon? Il me semble que dans l'ordre des choses aussi, je me serais inquiété. Hey, on s'en va voir l'armée égyptienne, on va commencer par s'occuper d'eux autres, puis après ça, on verra pour les Philistins. Non, Dieu planifie, pense autrement. D'abord, Dieu sait d'avance comment il va vaincre les Égyptiens. Il est déjà au courant de ce qui va arriver. Il sait déjà qu'il va les vaincre à travers la mer. Il va faire un prodige. Il va instaurer sa puissance. Il va démontrer sa puissance à son peuple. Avant qu'ils puissent goûter à cette délivrance-là plus tard, il veut leur montrer quel Dieu il est. Il veut se révéler à eux par la puissance devant les Égyptiens. Il veut montrer quel Dieu ils ont à faire. Ils sont au début de leur marche de foi. Alors, il veut leur montrer, il veut vraiment enfoncer cette image-là dans la tête des Israélites. Je suis le Dieu Tout-Puissant que vous suivez et voyez-vous qu'est-ce que je peux faire devant vous. Donc les Égyptiens, ils ne s'en occupent pas, ça ne l'inquiète pas. Il va marquer, il va se révéler. C'est ce qu'on veut comprendre. Il va se révéler aux Israélites devant l'armée égyptienne. Mais il aurait pu faire la même chose avec les Philistins. Pourquoi il leur fait prendre le détour encore? Cette question-là va revenir tout le temps. Pourquoi il fait prendre le détour? Parce qu'il veut que son peuple grandisse dans sa foi. Dieu veut que Israël apprenne à développer, à épanouir sa foi en Dieu. Donc, dans un premier temps, il va, oui, montrer sa puissance, se révéler. Donc, il va donner de l'information en battant les Égyptiens de cette manière-là, il donne de l'information. Voici combien je suis et à quel niveau je suis puissant et combien je peux faire des grandes choses pour vous. Donc, il marque, il donne de l'information. Ils ne se sont pas appropriés encore ce Dieu-là, mais Dieu va montrer, va dire, voici quel Dieu puissant je suis. Avec les Philistins, il va vouloir que le peuple lui fasse confiance dans la bataille. Donc là, leur foi devrait avoir grandi par ce temps-là. Leur foi devrait avoir mûri par ce temps-là. Et donc, ils se seront appropriés la foi en ce Dieu puissant. Et ils vont être prêts à affronter eux-mêmes les Philistins avec l'aide de Dieu. Il faut le voir comme ça. C'est la seule façon de pouvoir répondre à cette question-là. Pourquoi les Philistins sont apeurants versus les Égyptiens? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus apeurants pour Dieu. Dieu ne craint pas les Philistins. Dieu dit, je ne veux pas qu'ils perdent courage quand ils vont voir la guerre contre les Philistins et qu'ils retournent de bord. Il ne veut pas que le peu de foi qui est en train de s'allumer en eux, il ne veut pas voir cette foi-là s'éteindre. Pourquoi le détour? Parce que les Juifs ne sont pas prêts à un tel défi de foi. Ils ne sont pas rendus à la maturité pour dire, voici, avec Dieu, on va vaincre toutes les armées. On a besoin de vivre d'autres expériences avec Dieu. On a besoin d'expérimenter un Dieu, non seulement qui est tout puissant, mais qui prend soin de nous. Et c'est de sorte qu'ils vont aller faire ce cheminement-là, ce pèlerinage dans le désert. C'est un peu comme la préparation d'un marathonien. Si vous étiez un coach pour quelqu'un qui veut entreprendre un marathon du jour au lendemain, est-ce que vous lui dites, lancez-vous dans la course? Vous allez dire, vas-y, fais ton 42 km chaque jour, puis tu devrais être correct pour le prochain marathon. Non. Vous allez donner l'équipement qu'il faut. Vous allez donner un programme d'entraînement. Il va courir un peu plus chaque jour pour éventuellement être capable de courir ce marathon-là. Vous allez lui donner des défis à sa mesure jusqu'à temps que sa capacité devienne à faire véritablement par lui-même ses marathons. C'est comme ça que ça... Et là, à mesure qu'il va vaincre des petits objectifs, il va devenir capable, il va avoir confiance dans le coaching que vous lui donnez, dans les instructions que vous lui donnez. Et là, il va courir de plus en plus, il va faire de plus en plus confiance, et là, il va être prêt un jour à faire son marathon. Dieu prépare son peuple pour un marathon. La guerre en Israël, ce ne sera pas juste une petite guerre. Quand ils vont arriver à Canaan, il y a plusieurs peuples à détruire. Il y a des gens qui sont habitués à la guerre. Les Philistins sont un peuple guerrier, habitué à la guerre, habitué à se battre. Pas les Juifs, pas à ce moment-là de leur histoire. Ils sortent de l'esclavage. Ce n'est même pas une armée. C'est juste un peuple qui sort par miracle du joug de son maître, c'est-à-dire le Pharaon. Donc Dieu prépare son peuple, petit morceau par petit morceau, comme il le fait avec nous, pour qu'il puisse affronter des plus grands défis un jour. Et ce défi-là va être les Philistins, va être toutes les armées qui sont en Canaan. Dieu était assez puissant pour vaincre les Philistins, sans aucun doute. Dieu n'avait aucun doute sur la capacité qu'il avait de faire tomber les Philistins. En fait, il a fait tomber tellement de monde, sans même que Israël ait dû à combattre. Mais il voulait un but, il avait un but pour les Israélites, c'est qu'ils exercent leur foi. C'est qu'ils apprennent à connaître ce Dieu-là, à s'approprier cette relation-là avec Dieu dans leur marche de foi. Dans le désert, c'est une autre drôle de chose, pourquoi il fait ce détour-là? Moïse avait vécu dans cette région-là, dans son pèlerinage. Vous vous souvenez, il a passé 40 ans dans le désert, Moïse, à un moment donné, et il a vécu dans cette région-là. Moïse savait très bien que dans cette région-là, il n'y avait pas beaucoup d'eau, pas beaucoup de nourriture, beaucoup de raisons pour chialer. Raison de plus pour ne pas aller dans ce coin-là. Mais encore, pourquoi Dieu les dirige vers un coin aussi peu accueillant pour faire son détour? Pour les préparer à la guerre? Non, pour les préparer à le connaître. Le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui allait prendre soin d'eux en leur donnant de l'eau, le Dieu qui allait prendre soin d'eux en ne laissant pas leurs vêtements s'user, le Dieu qui pourvoit en leur donnant de la nourriture aux besoins. Ils devaient apprendre à se faire connaître à eux sur plusieurs aspects. C'est pourquoi il fallait qu'ils passent par un détour, non seulement par un détour, mais un détour dans une terre non accueillante pour démontrer encore plus les caractéristiques et les qualités qu'il avait à leur offrir. Dieu aura dans ce désert-là beaucoup d'occasions de leur montrer qui il est. Ils auront aussi, eux, la décision de prendre cette décision-là de foi ou non, ensuite de ça. Le but de Dieu, ce n'est pas qu'on arrive au point A ou au point B rapidement. Le but de Dieu, c'est que notre marche devienne aussi notre destination. Et dans ce sens-là, le but de Dieu, c'est de garder notre foi et de la faire grandir jour après jour dans son expérience avec lui. Jean 6, 39 et 40 nous indique ceci dans le Nouveau Testament. Jean 6, 39 et 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde de tout ce qu'il m'a donné, ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. L'efficacité selon Dieu, c'est de garder ses enfants dans la foi. C'est de garder ses enfants qui partent d'un point initiateur de la sortie d'Égypte jusque dans l'éternité, à la résurrection. Pour voyez-vous, le chemin pour Dieu, ce n'est pas le but du chemin pour Dieu, ce n'est pas la destination, mais bien aussi tout le parcours qui fait entre les deux. C'est ce que le texte nous rappelle ici ce matin. Le processus pour Dieu est toujours aussi important, sinon plus, que la destination ou le résultat. Nous, on calcule toujours en termes de résultats. Oui, mais ça donne quoi? Où tu nous mènes avec ça? Où on s'en va? Mais le but de Dieu, c'est le processus. C'est la transformation qu'on va gagner sur la route avec lui. C'est le niveau de connaissance intime, c'est le niveau de relation qu'on va développer avec lui au cours de la route, avec tous les détours par lesquels il va nous faire passer. Dieu veut nous rendre semblables à Christ. C'était vrai pour Israël, bien qu'ils ne connaissaient pas Christ. Il voulait les rendre parfaits. Il voulait les conduire par un peuple qui allait avoir la foi, confiance en lui et transformé par sa présence et sa personne. C'est la même chose aujourd'hui. Romains 8, 28 et 29 nous rappellent ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi? Ce que j'aime le plus dans ce passage-là, c'est le deuxième verset, le verset 29. Parce qu'il nous dit, c'est quoi le bien de ses enfants? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Dieu veut nous rendre plus pareil à son Fils. Voici le but, voici la destination pour Dieu. La destination, ce n'est pas la vie éternelle, le lieu avec lui. C'est assuré. Le but de Dieu, la destination que Dieu veut nous faire emprunter, c'est d'arriver à être à l'image de son Fils. Et c'est ce qu'il faisait avec son peuple d'Israël. Il voulait les amener à une maturité dans leur foi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette histoire-là, de détour? Hein, c'est une aventure que les Israélites vivent pour la première fois avec Dieu. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette aventure-là où Dieu les mène dans ce détour-là? Bien, Dieu les engage sur la voie de l'expérimentation. Notre foi, nous, chez les baptistes, trop souvent est une foi intellectuelle. On dénie souvent l'expérience. Et je ne suis pas ici pour faire la démonstration, l'importance de l'expérience, mais Dieu veut qu'on expérimente sa présence. Dieu veut qu'on expérimente ses attributs. Dieu veut qu'on expérimente la personne qu'il est pour marcher avec lui. Voici le but de Dieu. Dieu veut qu'on apprenne à suivre son leadership. Dieu veut apprendre à ce peuple-là dans le désert à suivre Dieu par l'entremise de son leadership. Dieu veut apprendre à se faire connaître à ces gens-là, pas seulement comme des séries d'informations. Hein? On peut dire des fois, si on fait certains cours de théologie, on a l'impression qu'on énumère une série de caractéristiques sur Dieu. On a l'impression d'énumérer Dieu est ci, Dieu est ça, Dieu est ça. Mais est-ce que Dieu, tu le connais, toi, comme ça? Est-ce que toi, tu connais Dieu de cette manière-là? Est-ce que tu connais son amour? Est-ce que tu connais sa providence? Est-ce que tu es assez en relation avec lui pour connaître qu'il va te mener à bon port? Est-ce que tu as assez confiance en lui pour ça? C'est ces caractéristiques-là appropriées que Dieu veut nous apprendre. Et c'est pour ça qu'il fait prendre le détour au peuple d'Israël et qu'il fait souvent prendre des détours dans notre vie aussi. Je ne sais pas s'ils l'ont interprété comme ça, les gens dans le peuple, mais le peuple d'Israël a eu la chance d'expérimenter la personne de Dieu à travers toutes les aventures qu'ils ont vécues au désert. C'est une opportunité, c'est une chance qu'ils ont eu d'avoir les détours. Ça aurait été facile pour Dieu de les faire passer par le chemin direct, mais est-ce qu'ils se seraient approprié ce Dieu-là devant eux? Est-ce qu'ils se seraient approprié cette puissance-là que Dieu avait en réserve pour eux, pour les victoires futures? Non. Ils n'auraient pas grandi à travers ça. Ils auraient juste eu le résultat. Ils ont bénéficié du détour que Dieu leur faisait prendre, parce que Dieu leur donnerait l'occasion de grandir dans leur connaissance intime de Dieu. Dieu n'a aucun intérêt à ce qu'on connaisse des choses sur lui. Dieu n'a aucun intérêt à ce qu'on fasse des listes et dire « voici ce que Dieu est ». C'est sans intérêt pour Dieu. Et en fait, c'est sans intérêt pour nous, mais même que c'est dangereux pour nous que de simplement connaître des choses sur Dieu et de ne pas connaître notre Dieu. Les détours servent à ça, à nous faire grandir dans notre foi, dans notre démarche spirituelle, qui n'est, encore une fois, je le répète, pas du tout linéaire. Dieu nous fait passer par des détours parce que les détours nous amènent vers la foi. Dieu nous fait passer par des détours parce que c'est là qu'il a le temps de nous montrer des choses, de se révéler à nous. Hein? Nous, on veut être rapide, on veut que les choses se passent. On voudrait devenir chrétien et devenir parfait la semaine d'après, en plusieurs étapes. Hein? Un livre en 25, devenir un chrétien parfait en 25 étapes. Ce livre-là n'existe pas, mais il y a des livres semblables. J'ai fait exprès pour ne pas nommer le bon. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ça, Dieu. Dieu veut qu'on apprenne à vivre quotidiennement avec lui. Et pour qu'on prenne du temps avec lui, parfois dans la vie dans laquelle on court tout le temps, on a l'objectif en tête, on court, on s'en va, on a tout un horaire chargé, Dieu est obligé de nous faire passer par des détours de vie pour qu'on ait le temps, qu'on lui accorde le temps nécessaire à se faire connaître à nous. En passant, si vous saviez tous les défis, si vous regardez votre vie chrétienne, je vois des gens qui ont une vie chrétienne de plusieurs années maintenant devant moi. Si au début de votre vie chrétienne, vous saviez, vous auriez vu tous les défis que vous aviez à affronter plus tard, si vous aviez vu à l'avance toutes les difficultés que vous auriez dans votre vie chrétienne dans les années à venir, est-ce que ça ne vous aurait pas donné un cue pour dire « pas certain, moi je vais vivre ça, moi je vais devoir accepter ça, moi je vais devoir faire ça » Si vous aviez vu ces défis-là bien à l'avance, peut-être que finalement, vous auriez peut-être retourné de bord dans votre Égypte personnelle. Et Dieu vous a évité ça parce qu'il vous a bâti défi par défi jusqu'à ce que vous arriviez devant les défis que vous êtes actuellement. On a vu ce matin, entre autres, que Dieu va nous demander, il nous demande toujours de relever des défis de foi. Il nous demande toujours de grandir notre foi de sorte que les défis deviennent de plus en plus grands devant nous. Des défis, des choses à accepter de la part de Dieu, l'obéissance qu'il nous demande est toujours de plus en plus grande, toujours de plus engageante, toujours de plus demandante. Mais avec ça, il nous donne aussi la révélation de sa personne pour qu'on puisse faire face à ces choses-là. Ce qu'on doit savoir, c'est aussi que Dieu ne nous laisse jamais prendre un défi sans nous avoir équipés pour y faire face. On peut voir dans cette histoire-là que Dieu a pris le temps avant de les amener devant les Philistins, avant de les amener devant les terres de Canaan, les peuples de Canaan, il a pris le temps de les équiper. Donc, il ne les a pas laissés seuls à dire, « Bon, on fera ça plus tard, vous arrangerez bien. » Non, Dieu les a préparés, a préparé un détour pour se mettre à part avec son peuple et se révéler à lui. Je ne sais pas si vous êtes dans l'épreuve en ce moment, je ne sais pas si vous êtes dans un détour en ce moment dans votre vie. Peut-être que vous vivez un détour en ce moment dans votre vie et que Dieu vous met à part en ce moment pour vous parler, pour prendre soin de vous communiquer qui il est, pour prendre soin de vous en vous prenant à l'écart et dire, on va vous préparer pour la prochaine. On va vous préparer, pas pour la prochaine épreuve, mais pour le prochain défi de foi, pour la prochaine expérience avec Dieu, pour la prochaine expérience sur la marche chrétienne. Vous savez, d'une façon personnelle, des fois, j'ai l'impression que ma vie chrétienne, c'est juste des détours. J'ai l'impression que moi, dans ma vie, je n'ai pas eu souvent de ligne droite dans ma vie chrétienne. Je n'ai pas eu de chemin tout tracé. Je n'ai pas l'impression que je peux voir toujours le point B devant moi. Parce qu'à chaque fois que je vois le point B, il y a un détour qui m'accroche et Dieu veut se manifester à moi. Ça fait 25 ans, un peu plus, que je suis chrétien. Et j'ai appris que la foi n'est pas un phénomène ou une expérience linéaire, droite, parfaite, sans accroc. C'est plutôt une vie de zigzag, de croche, de détour, de haut et de bas. À travers l'expérience de ma vie chrétienne, j'ai expérimenté la faim, j'ai expérimenté la souffrance, j'ai expérimenté le deuil, J'ai expérimenté la maladie. J'ai expérimenté les frustrations liées à vivre la vie chrétienne dans une église. J'ai vécu la frustration dans le leadership d'église. J'ai vécu les difficultés qui viennent avec. Beaucoup de joie aussi en passant, mais je veux juste vous dire, beaucoup de détours, beaucoup de croches par lesquelles Dieu devait me faire passer pour me montrer qui il était et comment il prenait soin de moi tout au long de cette route-là. J'ai certainement pas été à la hauteur de tous les défis. J'ai certainement pas relevé tous les défis avec mention, tout au contraire. Plusieurs fois, j'ai manqué. Plusieurs fois, j'ai manqué au point tel que finalement, ma vie ressemblait au peuple d'Israël et je tournais en rond dans le désert. Et sans savoir, « Où est Dieu? Qu'est-ce que tu fais? T'es où, là, pendant que je souffre? » Et Dieu est en train, au contraire, de prendre soin de moi et me dire, « Je suis en train de prendre soin de toi. Je suis en train de t'apprendre à me connaître. Ma vie ressemble plus à des zigzags, à des hauts et des bas, à des détours. » Vous savez, ce que j'apprends de plus en plus chaque jour avec ça, c'est que je deviens aussi la personne que Dieu veut que je sois de plus en plus avec ça. Je suis en train d'apprendre à travers ma vie que l'important, ce n'est pas la destination tout le temps. L'important, c'est le détour par lequel Dieu me fait passer parce qu'il est en train de transformer ma vie et son but, son objectif ultime, c'est de me rendre pareil à son Fils. Et en acceptant cette vérité-là, je suis moins pressé de courir vers plusieurs objectifs, mais je deviens de plus en plus pressé d'écouter la parole de Dieu et de dire, qu'est-ce que tu as à me dire dans ce détour-là? Qu'est-ce que tu as à me chuchoter à l'oreille aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre pour ma vie encore une fois? Pour pas que je continue à tourner en rond, parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous faire tourner en rond, c'est qu'on affronte finalement nos défis de foi. Par ce petit témoignage-là, je veux juste, en fait, moi témoigner à quel point j'apprécie que Dieu soit patient avec moi, que Dieu persiste à vouloir me faire connaître sa personne. Je suis reconnaissant de voir du petit gars que j'étais à 12 ans quand je l'ai connu, tout le chemin parcouru avec lui. Comment Dieu a dû persister, cogner à ma porte plusieurs fois, m'amener sur des chemins de travers continuellement pour que je comprenne un petit peu plus chaque jour ce qu'il veut être en train de faire avec moi. Non pas une personne meilleure, non pas une personne rendue quelque part, mais une personne qui écoute un peu plus chaque jour ce qu'il a à me dire. J'ai probablement refusé plus de défis que j'en ai acceptés. J'ai probablement échoué plus de défis que j'en ai reçus, que j'en ai gagnés. Mais toutefois, la personne que je suis aujourd'hui, non pas que c'est glorieux que ce que je suis devenu, mais la transformation que Dieu a opérée dans ce cheminement-là me rend reconnaissant que Dieu a persisté à me faire prendre les détours. Alors, je ne sais pas c'est quoi vos détours actuels. Je ne sais pas c'est quoi vos défis de foi en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait souffrir en ce moment, qui vous appelle à écouter un peu plus ce que Dieu a à vous dire. Je ne sais pas si c'est la maladie, le deuil, la perte d'emploi, les défis économiques, les défis financiers, les relations familiales difficiles, un péché qui vous détruit mais que vous n'arrivez pas à avoir le dessus. Je ne sais pas quel combat vous vivez. Je ne sais pas quel détour dans lequel vous êtes en ce moment. J'ignore ces choses-là. Peut-être que pour l'instant, votre épreuve que vous vivez vous semble insurmontable. Peut-être quelque chose vous dites, « Boy, je ne passerai jamais au travers de celle-là. Je ne passerai jamais par-dessus celle-là. » Le but de Dieu, ce n'est pas de vous faire passer par-dessus cette épreuve-là, mais bien au travers de cette épreuve-là, mais dans sa présence. Essayons de voir la destination comme étant le processus par lequel vous allez être transformé, beaucoup plus que par être sorti de l'épreuve. Le but de Dieu par l'épreuve, ce n'est pas de vous faire sortir de l'épreuve, mais la maturité que vous allez acquérir au travers de l'épreuve dans une relation avec lui. Je suis certain que plusieurs d'entre vous vous avez passé plusieurs fois à travers des défis et des détours que Dieu vous a conduits. Et vous regardez en arrière, vous dites, « Wow! » Vous avez même oublié peut-être les souffrances que vous avez vécues pour dire, « Wow! Quel chemin Dieu t'a fait dans ma vie! » Mais vous êtes dans ce défi-là actuellement, puis vous dites, « Celui-là, je ne passerai pas au travers. » L'important, ce n'est pas de passer au travers ce défi-là, mais bien de l'expérimenter dans la présence de Dieu. Si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre vie actuellement, c'est peut-être que vous marchez dans le désert avec Dieu. Si vous avez l'impression que votre chemin ne va pas en ligne droite en ce moment, mais que ça ressemble plus à des zigzags ou au cours de la bourse, je ne sais pas, peut-être qu'actuellement, vous êtes en train d'expérimenter la présence de Dieu, Dieu est en train de cogner à votre porte. Je ne connais pas tous ici, je connais plusieurs d'entre vous. Si aujourd'hui, vous ne connaissez pas encore cette relation-là avec Dieu, si votre démarche de foi n'est pas encore entamée, je vous invite à ne pas hésiter à embrasser la foi. N'hésitez pas à ne pas seulement connaître des choses sur Dieu, mais embrassez la foi et apprenez à connaître ce Dieu qui vous veut du bien, qui veut vous transformer, qui veut vous écouter et surtout qui veut vous amener à la perfection comme son Fils. Mais si vous êtes croyant, comme la plupart, j'imagine, d'entre vous, puisque je vous connais plusieurs d'entre vous, vous êtes peut-être aussi en train de tourner en rond et vous avez l'impression que votre vie tourne en rond. Comme le peuple d'Israël dans le désert, je vous invite aussi à embrasser la foi. Si vous êtes dans le désert en train de tourner en ce moment, c'est que Dieu veut que vous surmontiez ce chemin-là par votre foi un peu plus grande, un peu plus mature, un peu plus proche de lui. Dieu est en train de vous inviter. Hein? Quand on est dans un détour, c'est parce que Dieu nous y invite. Ce détour-là, il est forcé par Dieu. Dieu est en train de vous inviter à surmonter votre détour ou votre défi par une plus grande foi en lui, une plus grande confiance en lui, une plus grande paix en lui, une plus grande sérénité en lui. C'est un défi qu'il vous pose. Il est en train de vous faire passer à une étape supérieure dans votre marche spirituelle. Non pas qu'il y a des paliers, mais il est en train de vous faire grandir en lui. Et je vous invite formellement, je vous invite, si je pouvais vous implorer d'embrasser cette foi-là, au lieu de vous poser la question pourquoi vous êtes dans un détour, pourquoi vous marchez tout croche, pourquoi les choses ne vont pas comme vous vouliez, pourquoi vous n'êtes pas efficace, bien peut-être posez-vous la question, quel genre d'efficacité Dieu veut travailler dans votre vie en ce moment? Prenez pas le risque de refuser le défi. Israël a été placé devant un choix ensuite. Israël, suite à son pèlerinage, je vous l'ai dit tantôt, ça a duré 40 ans. Le plan de match de Dieu n'était pas 40 ans. Il a fait un détour, mais je suis persuadé que Dieu n'avait pas comme plan de match le détour de 40 ans. Dieu voulait les ramener en Canaan ensuite. Il voulait les faire passer au travers des Philistins ensuite. Il ne voulait pas les faire errer dans 40 ans et mourir dans le désert. C'est parce qu'ils ont refusé le défi de la foi. Ils ont refusé d'expérimenter la toute-puissance de Dieu dans le désert. Et à cause de ce refus-là de foi, ils ont dû errer dans leur vie, dans leur foi, qui était un peu vacillante avant tout ça. Alors, ce que je vous invite, ce que je vous implore à faire, acceptez le défi. Évitez pas les détours. Prenez-les de plein fouet. Marchez dans les détours avec Dieu. Et vous allez en sortir beaucoup plus vite, grandir, et vous allez voir, vous allez être devenu un peu plus efficace, mais à la manière de Dieu. Je prie. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que tu es un Dieu tout-puissant qui persévère à nous vouloir nous faire du bien. Tu persévères à vouloir nous transformer. Tu persévères à nous aimer. Seigneur, peu importe les bébites qu'on a, les difficultés qu'on a, les manques qu'on a, Seigneur Dieu, tu persistes à vouloir nous aimer malgré nous. Seigneur, c'est ce que je vous invite, je veux qu'on s'invite à faire ensemble ce matin, c'est accepter cet amour-là pour être transformé par toi. Acceptons ta personne, acceptons qui tu es dans toute ta grandeur pour qu'on puisse enfin vivre la liberté et l'efficacité à ta manière. Amen.
Merci beaucoup, Sébastien, pour les messages que tu nous as donnés ce matin. On va se lever ensemble, on va chanter un autre cantique. On va chanter un autre cantique. Oh, pas de son?
Pas de son.
Ah oui, les moniteurs, oui. Merci beaucoup, François. On va y arriver. Ensemble.
Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, aux yeux de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna.
Marchons ensemble,
marchons ensemble.
L'ennemi tremble,
l'ennemi tremble.
Dieu est avec nous,
Dieu est avec nous.
Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna.
Qui pourra taire,
qui pourra taire
notre prière,
notre prière.
Dieu est avec nous,
Dieu est avec nous.
Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna. Oh, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna.
Ouvrons les portes.
Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon temps des fêtes. Bonne journée de l'année qui s'en vient. Profitez de vos vacances. Amen.